Bonsoir. C'est mardi 24 avril 2018. La RDC totalise 28 ans du processus démocratique depuis les discours du lancement de la démocratisation du pays. Le 24 avril 2019, par le maréchal Mobutu. Depuis lors, il y a eu notamment deux cycles électoraux, ceux de 2006 et de 2011, ainsi que des expressions démocratiques dans des meetings comme celui de l'IDPS tenu ce mardi sur la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Njili à Kinshasa. Quelle lecture faire du processus démocratique en RDC 28 ans après son lancement? C'est la question de l'émission. Et nous avons dans cette émission Maître Joseph Mukendi Wamulumba, il est cadre de l'IDPS, ancien conseiller politique de Tshisekedi Tshisekedi. Bonsoir Maître Joseph Mukendi Wamulumba. Voilà, il va nous rejoindre. Dieudonné Mwende, député national honoraire et cadre du PPRD, il est aussi communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir honorable Dieudonné Mwende.
Bonsoir Guy Maté.
Et professeur Jeff Moudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Bonsoir professeur Jeff Moudimbi.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Première sortie du président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle depuis son élection à la tête du parti. Félix Tshisekedi s'est adressé au cours d'un meeting politique ce mardi à une foule immense réunie au terrain de Njili Sainte-Thérèse. Les détails avec Michel Kifindangoy.
C'est autour des 15h heure locale que le cortège du président de l'UDPS, Félix Tshisekedi, accompagné d'une foule immense, est arrivé à la place Sainte-Thérèse en Djili. De son passage délimité en Djili, la foule ne faisait qu'augmenter au point d'occasionner des embouteillages sur le boulevard Lumumba et sur l'avenue Kimbuta. Dans son adresse, Félix Tshisekedi s'est appesanti sur, notamment, le retour de la dépouille du feu Étienne Tshisekedi qui sera inhumé dans la commune de Lancélé. Au chapitre de la décrispation, le président de l'IDPS a félicité la police d'avoir bien encadré les manifestants et a encouragé le pouvoir de poursuivre de bonne foi la décrispation en libérant les prisonniers politiques et en autorisant les exilés politiques comme Moïse Katumbi de retourner au pays. Concernant le processus électoral en cours, Félix Tshisekedi rejette à la fois la machine à voter et le fichier électoral. Il plaide pour le remplacement d'ici la fin de ce mois du délégué de l'UDPS au poste du rapporteur de la CENI. Quant aux rumeurs qui circulent autour de sa prochaine nomination à la primature, le président de l'UDPS dit ne focaliser son attention que sur la prochaine élection présidentielle qu'il espère emporter. Njili Sainte-Thérèse, Michel Kifindangoy, Radio Okapi.
Merci à vous Michel Kifindangoy. Maître Joseph Mukendi Wamulumba, bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS et ancien conseiller politique d'Étienne Tshisekedi. Le nouveau président de l'UDPS, Félix Tshisekedi, a organisé son premier meeting aujourd'hui, 24 avril 2018. Meeting au cours duquel il s'est exprimé librement. N'est-ce pas un signal positif par rapport au processus démocratique en RDC?
Non seulement c'est un signal positif, mais il y a une double symbolique qu'il est important de rappeler au début de cette émission. L'UDPS, en 1991, a tenu le premier meeting sur le terrain d'Njili Sainte-Thérèse. Donc c'était un retour aux sources et cela est très important. La seconde symbolique, nous sommes le 24 avril et c'est la date pour nous qui est la fête de la démocratie. Sous cette double symbolique, il faut dire que pour un premier essai, c'est réellement très bien réussi. Et le nouveau président de l'UDPS a réussi un pari qui n'était pas gagné d'avance. La mobilisation était au fait. Le message a été percutant. Le président de l'UDPS a surtout démenti les rumeurs qui risquaient de décourager beaucoup de nos combattants. Et a été aussi perspicace en lançant un message à nos amis africains à l'extérieur sur la politique de paix de l'UDPS, ainsi qu'à la communauté internationale pour l'investissement, car le pays sera un pays de droit où leurs droits seront garantis et leurs investissements seront sécurisés. Et c'est ainsi un nouveau schéma de l'UDPS que le président Félix Tshisekedi a voulu tracer en début de ce mandat.
28 ans après l'institutionnalisation de la démocratie, quel bilan vous pouvez faire du processus démocratique en RDC? Ces processus évoluent-ils positivement? Il évolue, mais pas comme il se doit. Quelle est votre appréciation par rapport à l'évolution du processus démocratique en RDC?
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu un ralenti qui a été malheureux depuis l'arrivée de l'AFDEL et puis l'accession de Kabila père et Kabila fils. Nous avons eu un petit éclairci avec le dialogue intercongolais, mais depuis lors, malheureusement, il y a eu un recul important. Et ce qui est très important dans le message du président Félix Tshisekedi aujourd'hui, il a voulu encourager nos autorités qui sont en place de pouvoir poursuivre sur la bonne ligne, puisque il faut quand même dire que c'est une bonne chose pour le gouverneur et le gouvernement d'avoir pris acte et d'avoir sécurisé ce meeting qui s'est déroulé sans aucun incident. Et vous avez vu que les personnes avaient soif de la bonne nouvelle. Il n'y a eu ni casse, ni violence. Et c'est ça qui est la vraie démocratie. Donc, il y a eu un recul. Et comme nous sommes le 24, je disais que nous commençons, c'était une symbolique, notre double symbolique. Le premier meeting de l'UDPS, un autre meeting de l'UDPS qui marque la résurrection de la démocratie qui était un peu enterrée. Et vous savez que la résurrection est beaucoup plus redoutable que la vie. Et Jésus, après sa résurrection, a fait des miracles qui font que son œuvre dure jusqu'à présent. Donc avec Félix Tshisekedi, nous pouvons dire, en retournant à la place Sainte Thérèse, là où son père avait prononcé le premier meeting, il a contribué, il a voulu annoncer à la face du monde la résurrection de l'UDPS. Et pour la démocratie, c'est une bonne nouvelle. Et nous pensons que les amis qui sont au pouvoir, qui ont commencé de poser des gestes positifs, vont continuer sur la bonne voie et dans la bonne foi, parce que nous avons tous besoin de bonnes élections, crédibles, démocratiques et claires.
Une sortie réussie, n'est-ce pas, de Félix Tshisekedi. Il a tenu son meeting sans problème, sans casse. Maître Mukendi, 28 ans après, le pays compte une centaine de chaînes de télévision et radio, ainsi que environ 500 organes de presse écrites. Peut-on dire que certaines valeurs, n'est-ce pas, fondamentales de la démocratie, notamment la liberté d'expression, sont de mise en RDC?
Il faut surtout dire que si ces valeurs sont de mise, et c'est surtout grâce au courage, à la persévérance des journalistes congolais qui payent d'ailleurs très lourd le fardeau de cette période d'intolérance. Et nous voudrions saluer donc tous ces journalistes. Et bien sûr, c'est noblesse oblige. Nous sommes à Radio Okapi, qui est une radio très démocratique qui reçoit toutes les personnes. Ce qui a contribué beaucoup à la démocratie. Donc, nous pensons que il est important pour que le pays se développe, pour que l'état de droit s'installe. Et il faut que l'état de droit s'installe pour que le développement vienne et que la misère disparaisse. Et en ce moment-là, nous pensons que la liberté de la presse, comme la liberté tout court, est une exigence fondamentale de l'état de droit.
Comparativement aux pays africains comme la République du Congo et le Bénin qui sont passés, n'est-ce pas, quasiment par les mêmes expériences que la RDC, ils ont organisé les conférences nationales qui ont donné lieu, n'est-ce pas, à des courtes périodes de transition avant d'organiser des élections démocratiques et libres. Et Maître Mukendi, pourquoi la RDC a connu une longue période de transition et qui est partie de 1990 à 2006?
Eh bien, la seule réponse que je peux vous donner, et je pense que nous pouvons pouvoir aussi essayer d'ajouter, j'étais lors de la période de printemps, qu'on peut dire, du Congo, le gouvernement issu de la CNS, j'avais été délégué à l'ONU et un ami à moi qui était ministre des Affaires étrangères du Bénin, le professeur Dossou, je lui avais posé cette question, il me dira, vous savez, nous, quand nous sommes chez nous au Bénin, nous nous mettons d'accord, la situation est claire et ça va de l'avant. Mais vous au Congo, vous avez tellement de richesses. Quand vous vous mettez d'accord, ce n'est pas fini. Il faut vous mettre d'accord avec les Belges, après avec les Français. Il faut attendre que les Français se mettent d'accord avec les Américains et les Canadiens. Donc le problème est que nous sommes un grand pays, c'est vrai. Et il y a beaucoup de richesses. C'est d'ailleurs ce que le président Félix Tshisekedi a rappelé aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit d'être malheureux dans ce pays. Vous savez que pour la FMI, la République démocratique du Congo du Zaïre à l'époque, devait être un des membres, non pas bénéficiaire, mais un membre qui devait donner de l'argent pour que d'autres en bénéficient, puisque quand vous regardez les jeunes qui regardent les livres de géographie, tout ce que nous avons comme richesse, et on continue à en trouver. Vous avez le président parlant de tourbières. Dans le cadre de l'écologie, c'est une grande richesse que le Congo a. Donc nous avons tellement de richesses que nous n'avons pas le droit d'être pauvres. Et j'ai dit aux Congolais, nous à l'UDPS, nous refusons d'être pauvres. Nous refusons la pauvreté. Nous voulons maintenant que le pays aille de l'avant et que de cette façon nous puissions nous développer et que le Congolais retrouve sa place naturelle de leader en Afrique et de leader dans le monde, pourquoi pas.
Et donc, vous voulez dire qu'un pays riche comme la RDC aurait du mal, n'est-ce pas, à avoir une démocratie effective?
Nous devons être conscients que ceux qui nous regardent et qui n'ont pas les mêmes sentiments que nous pour développer le pays ont intérêt à ce que le pays soit amietté. Vous savez très bien, Radio Okapi a passé beaucoup d'émissions à propos des événements de nos sœurs et de nos frères du Kivu. Pourquoi la guerre du Kivu? Et pourquoi jusqu'à maintenant il y a des pommes au Kivu? C'est à cause du coltan. Pourquoi le coltan? C'est parce que ça entre dans la fabrication maintenant des engins de cosmonautiques, dans les engins de fabrication de voitures électriques. Donc ce sont des minéraux très recherchés dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle nous devons, nous les Congolais, nous serrer les rangs. L'UDPS demande aux Congolais de se mettre d'accord autour d'un bon projet de société pour développer notre pays et permettre à notre pays de reprendre sa place et ses ambitions.
Merci M. Mukendi. Dieudonné Moïse, député national honoraire et cadre du PPRD. Vous êtes aussi communicateur de la majorité présidentielle. Quelle est votre appréciation du processus démocratique 28 ans après son lancement?
Monsieur Guy Maté, il faut d'abord noter que depuis 1990 jusqu'à ces jours, c'est vrai, nous comptons 28 ans. Et 28 ans, pratiquement, c'est l'âge de majorité pour une personne. Mais il faut aussi avouer que c'est l'âge de majorité pour la République démocratique du Congo. C'est un anniversaire, s'il faut appeler ça comme ça, qui coïncide avec des événements importants, notamment aujourd'hui le meeting de l'UDPS ou les manifestations de l'UDPS dont les autorités locales ont pris acte et qui n'a pas été interdit. Le meeting n'a pas été interdit et il n'y a pas eu de répression comme on a toujours prétendu le dire. Donc c'est des signaux forts que le pouvoir en place réellement est en train de manifester une volonté politique pour pouvoir impulser la démocratie dans ce pays. Et moi, j'avais même voulu écouter de la part du délégué de l'UDPS qui est dans ce studio pour qu'il reconnaisse quand même les efforts du pouvoir en place d'accepter que ce genre d'événements puissent se produire dans le pays. Ils vont se rappeler à l'UDPS qu'en 2016, je crois, ils ont eu un événement important avec fait président Étienne Tshisekedi de l'UDPS de la même manière, sans interruption, sans empêchement, sans répression. Et aujourd'hui, nous rentrons encore à ces bonnes habitudes qui, en principe, couronnent la volonté politique de démocratiser ce pays, la volonté politique du pouvoir en place avec à la tête Joseph Kabila, président de la République. Je crois qu'il faut aussi le reconnaître, puisqu'en principe, en termes d'avancées, il y a beaucoup d'avancées, je crois d'avancées significatives et même d'avancées notables que nous devons retrouver pratiquement dans tous les domaines.
Et quelles sont ces avancées selon vous?
Les avancées, d'ailleurs, vous avez même évoqué certaines d'entre elles, mais moi je peux évoquer le cas le plus important d'abord, c'est le multipartisme. Puisque rappelez-vous que le 24 avril 1990, lorsque l'on engageait ce pays sur la voie de la démocratie, et immédiatement il y a eu ce que nous appelons jusqu'à aujourd'hui ces rétro-pédalages du maréchal, le fait maréchal Mobutu, qui en principe il partait d'un multipartisme intégral le matin lorsqu'il prononçait son discours, à un multipartisme limité, je crois, à 3 le soir. Et il a fallu que les forces de l'AFDL reviennent, entrent dans ce pays en 1997 pour que l'on remette les choses à la normale, puisqu'en principe même les partis qui étaient en train de naître à son temps, c'était pratiquement, et je crois que là c'est aussi une occasion pour que je réponde à cette préoccupation puisque j'entends qu'il y a eu recul avec Kabila père et avec Kabila fils. Non, je crois qu'il faut le reconnaître, il y a eu certes
recule avec l'entrée des forces de l'AFDEL, puisqu'en principe le pays était pratiquement dans un désordre. Ce n'est pas à Maître Mukendi que je vais apprendre ça, il connaît bien comment les choses se sont passées entre 1990 jusqu'en 1997 avec cette histoire que nous avons vécue au sein de la CNS, pratiquement du désordre, où pratiquement aussi tous les opposants avaient pris le goût au pouvoir et tous les jours ont changé de gouvernement et tout le monde s'est complaisé à se remplacer mutuellement pour vivre cet événement. Mais heureusement, avec l'entrée de l'AFDEL, il y a eu réellement un recul, je le reconnais, jusque vers 98, lorsque ce pays a été pratiquement envahi par les différentes rébellions. Mais lorsque Joseph Kabila est entré en 2001, il faut le reconnaître, il s'est engagé pour relancer ce pays sur la voie de la démocratie. Et ça a été fait avec le dialogue intercongolais, qui en principe était déjà stoppé par M. Laurent Désiré Kabila, rappelez-vous de cette histoire de Kitumile Masiré, et le dialogue a été relancé par la volonté de Joseph Kabila, alors que personne ne lui donnait ce crédit, compte tenu de son âge, et depuis 2003 jusqu'en 2006, nous avons eu cette expérience heureuse de la formule 1+4, qui était déjà un apprentissage de la démocratie, puisque un pouvoir était installé dans le pays, mais ce pouvoir acceptait des partager le même pouvoir avec d'autres forces vives, notamment vous avez vu les gens de la rébellion, la société civile et l'opposition interne que nous avons appelée l'opposition pacifique. Donc il y a eu des avancées notables.
Vous avez il y a eu des avancées comme vous l'avez dit. Oui, on a connu des périodes importantes, n'est-ce pas, pendant ces processus. Et 97-2018, il y a des experts, n'est-ce pas, qui estiment qu'il y a eu beaucoup plus des violations des droits humains pendant la période 97-2018 que pendant la première période de celle du maréchal Mobutu.
Non, je crois que c'est peut-être une fausse lecture. Je crois qu'il faut dire les choses convenablement. Vous savez, nous étions un pays en plein conflit entre 1998, puisque c'est à ce moment-là que les conflits véritables ont commencé, le 2 août 1998, jusqu'en 2001, lorsque M. Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Nous étions pratiquement un pays au bord de l'implosion. Et lorsqu'on quitte cet état-là vers un état normal, c'est-à-dire à partir de 2003 en principe, après le dialogue intercongolais, jusqu'en 2006, lors de l'organisation des premières élections, il faut avouer qu'il y a des choses qu'il faut recadrer pour que le pays puisse respirer normalement, surtout en termes de démocratie.
Et lorsque et à cet effet, il fallait procéder aux arrestations, interpellations des personnes qui, n'est-ce pas, jouissaient de leurs droits démocratique, il fallait les incarcérer, il fallait même provoquer, n'est-ce pas, la mort, parce qu'il fallait recadrer les choses.
Non, pas nécessairement. Je crois que Guy Mathieu, il y a des choses qu'il faut recadrer. Nous ne pouvons pas dire que, puisque nous sommes en démocratie, qu'on ne peut pas y avoir des arrestations dans le pays. Non. Lorsqu'on enfreint la loi, Maître Mukendi le sait bien, lorsqu'on enfreint la loi, lorsque l'on a violé la loi, on est exposé à être arrêté. C'est tout à fait normal. Mais curieusement, dans ce pays, nous avons toujours créé cette confusion entre les politiques qui sont en conflit avec la loi et les politiques qui, en principe, sont des prisonniers de guerre, des prisonniers politiques. Donc, en principe, tout prisonnier, lorsqu'il est politique, il n'est pas nécessairement prisonnier politique pour dire qu'il est prisonnier politique. Non, il peut être politique, mais prisonnier en conflit avec la loi, c'est-à-dire un prisonnier de droit commun. Merci. Donc, il y a eu beaucoup d'avancées en termes des médias, vous l'avez dit. Je crois que nous avons aujourd'hui beaucoup de chaînes, aujourd'hui des télévisions dans ce pays. Nous avons des médias en ligne, nous avons des
oui,
médias...
Oui, mais justement, à ce sujet, est-ce que ce n'est pas un paradoxe? On permet à une centaine de chaînes de télévision, des radios de pouvoir fonctionner, on permet à une, n'est-ce pas, au moins 500 journaux de pouvoir exister, mais cela n'empêche que les gens soient arrêtés pour leurs opinions. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit paradoxal?
Non, nous pensons qu'il ne faut pas qu'on arrête les gens pour leurs opinions. C'est ce que j'étais en train d'expliquer.
Pourtant, c'est une réalité.
Non, je crois qu'il faut que l'on dise peut-être des cas isolés, on peut encore les évoquer, mais ça ne peut pas être généralisé. Mais ce qui est vrai, que le nombre des médias dans ce pays, c'est déjà un thermomètre pour réellement prouver à la face du monde que la démocratie respire ici. Pas simplement les médias, mais vous avez aussi les cycles électoraux qui ont été organisés dans ce pays. Rappelez-vous que c'est depuis plusieurs années, des dizaines d'années, Merci. Que nous n'avons pas eu des élections dans ce pays. Merci. Mais avec l'avènement de Joseph Kabila, nous avons eu les élections en 2006 et les élections en 2011 et nous en aurons en 2018.
Nous allons revenir à vous. Professeur Jeff Mudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi, 24 avril 1990, 24 avril 2018, 28 ans déjà depuis que le pays a été démocratisé. Quel bilan vous vous dressez de ce processus démocratique?
Merci beaucoup, M. Guy, pour la question que vous venez d'imposer. Je voudrais dire tout simplement que la démocratie en République démocratique du Congo depuis le 24 avril 2010, depuis le 24 avril 1990, a évolué en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a eu des avancées, il y a eu aussi des reculs. Vous vous souviendrez que lorsque le président Mobutu a libéralisé l'espace politique congolais en son temps zaïrois, n'avions qu'un seul parti politique. Et la démocratie à l'occidental, telle qu'elle est appliquée chez nous, elle implique qu'il y ait pluralisme politique. Nous en avons vu. Mais Mobutu a voulu construire une démocratie à sa mesure. Il y a eu un problème sérieux de légitimité d'abord des gouvernants et même des institutions qui devaient animer la transition. Alors le débat autour de ces deux points a entre autres expliqué la longue période de la transition que nous avons connue. Il y a le président Laurent Désiré Kabila qui est venu pendant son premier ou les premiers moments de son règne. Ça a été vraiment un coup de poignard dans la démocratie. C'est vrai, il nous a libérés. Je dis bien pendant les premiers moments de son règne, il nous a libérés de la dictature mobutienne, mais il nous a aussi imposé une autre. Comment cela? Parce que me référant toujours à la démocratie à l'occidental qui est d'application ici chez nous, il avait mis fin à toutes les activités des partis politiques. Et paix à son âme, le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, qui voulait à tout prix montrer que c'était un droit d'exercer des activités politiques, qu'il a quand même relégué chez lui avec des tracteurs pour lui permettre de faire du champ. Alors, on a assisté à la mise en place d'un Parlement constitué des membres désignés par le président Laurent Désiré Kabila lui-même. Or, ce sont des pratiques qui ne peuvent pas être admise dans une démocratie libérale. Par la suite, vers la fin de son règne, il a bien entendu fini par aussi libéraliser l'espace politique. Est venu enfin le tour du président Joseph Kabila, qui a réussi à organiser les élections en 2006 et puis en 2011. Alors, à partir de là, nous pouvons, comme je l'ai dit, comprendre qu'il y a eu des avancées, tout comme aussi il y a eu des reculs. Mais ça ne suffit pas pour dire que nous avons atteint un seuil de maturité. En effet, vous avez parlé de l'organisation du meeting aujourd'hui du président de l'UDPS. Mais je voudrais vous dire ceci, que la démocratie ne se réduit pas ici à l'autorisation d'un meeting. Et en plus de cela, lorsque, par exemple, pour une première fois, on arrive à respecter la loi telle qu'elle stipule que nous sommes dans un régime d'information, pas d'autorisation, il n'y a pas à jeter des fleurs à qui que ce soit dès lors qu'on arrive à respecter la loi. Donc, à ce moment-là, on montre tout simplement qu'on fait preuve d'un certain civisme. Et c'est comme ça que les choses devaient marcher. Donc, il n'y a pas à se glorifier pour dire que, bon, voilà, pour une première fois. Et d'ailleurs, qui sait que peut-être il s'agit tout simplement du saupoudrage? Parce qu'il faudrait attendre, je ne suis pas pessimiste, il faudrait attendre d'autres manifestations qui seront réalisées si réellement on arrive à les autoriser et que la police s'employait pour maîtriser la population de sorte qu'il n'y ait pas de cas de mort, qu'il n'y ait pas de débordement, alors à ce moment-là, nous comprendrons que réellement, nous avons pris un nouvel élan vers la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo.
Professeur Oudimi,
le cas d'aujourd'hui, c'est un cas isolé, oui monsieur.
Voilà, vous relevez les cas d'aujourd'hui, les meetings de l'UDPS, qui a été une réussite, qui s'est passé, n'est-ce pas, sans cas, c'est sans problème. Mais est-ce que les meetings d'aujourd'hui, vous ne pensez pas que le fait qu'on revient sur ça, il y a risque que cela puisse éclipser les récentes manifestations qui ont été réprimées dans les sangs.
Oui, vous voyez, M. Guy, vous avez raison. Et moi, je pense que, vous savez, en politique, hein, il faut éviter que l'on vous jette à tout moment des pierres. Parfois, on peut aussi faire des concessions. À ce moment-là, ça devient une sorte ou un cas jurisprudentiel. On dira toujours, non, voilà, nous sommes plus démocrates. Écoutez, nous avons autorisé et tout s'est bien passé sans heurts, etc., etc. C'est bien beau, nous saluons l'action. Mais il faudrait attendre encore, parce qu'il y aura d'autres manifestations. Comment est-ce que la police va se comporter, l'armée se comportera? C'est à partir d'une succession de faits que nous pouvons réellement dire que nous sommes dans un nouvel élan.
Professeur Oudimi,
la manifestation de... Oui,
oui, deux périodes importantes, 90 et 97, 97-2018. Il y a des experts, j'ai posé la même question à l'honorable Yedoné Mouenzé, il y a des experts qui pensent que les violations des droits de l'homme ont été beaucoup plus importantes, n'est-ce pas, pendant la deuxième période, donc au 97 en 2018. Est-ce que vous partagez cette appréciation?
Oui, alors là, il faudrait d'abord les quantifier pour... arriver à une telle conclusion, mais de toute évidence, nous comprendrons que les violations des droits de l'homme vraiment ont été manifestes dans tous les deux moments. Bon, ici, je n'ai pas vraiment des éléments à partir desquels je peux dire que bon, pendant la deuxième période ou le deuxième moment, ces violations-là ont été tellement exacerbées. Mais ce que nous retiendrons, c'est que, bon, de toute façon, on ne peut pas dire que la démocratie s'est suffisamment enracinée. Parce que, pour que la démocratie fonctionne correctement dans un État, il y a plusieurs éléments à tenir compte. Voyons, si nous prenons, par exemple, un élément tel que la tolérance, accepter que l'autre existe avec ses qualités, avec ses défauts. Mais cette qualité pose encore problème. Regardez les chrétiens catholiques ont marché ici avec leurs chapelets, mais ce sont des manifestations qui ont été réprimées dans le sang. Et qui plus est, il y a des chaînes de radio, de télévision qui continuent encore à ne pas être opérationnelles jusqu'à maintenant.
Professeur.
Et nous pouvons aussi citer les cas de prisonniers d'opinion.
Merci.
On n'a pas encore réussi à les libérer.
Merci professeur. Maître Mukendi, Joseph Mukendi à Mulumba, il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir, elle vient de Kisangani.
Ougen Mouadjoué depuis Kisangani, province de la Tchopo. À mon avis, le processus démocratique est en pleine construction parce que l'enjeu majeur de la démocratie, c'est la participation ou l'engagement des citoyens pour exprimer leurs mesures sur la voie publique. L'évaluation de l'action démocratique demeure très mitigée au regard de certaines violations des principes démocratiques qui entraînent la réduction de l'espace politique. La manifestation politique est l'une des expressions des citoyens car elle permet de constater la matérialité de la garantie accordée aux libertés publiques par le régime politique en place. Cette garantie est l'un des éléments de l'instauration d'un état de droit. L'acceptation des meetings de Félix Tshisekedi n'est qu'un poison retardé accordé à ce dernier et qui repose au calcul politique. La démocratie en RDC est un rêve et un idéal à atteindre.
Maître Joseph Mukendi.
Oui, je pense que lorsque mon contradicteur Dieudonné Mouenzé, que j'ai le plaisir de rencontrer sur ce plateau, lorsqu'il a parlé des progrès qu'il a voulu un peu vanter ici, mais il était trahi un peu par sa conscience puisqu'il a critiqué la politique de Mobutu avec un bon terme, il a dit le rétropédalage de Mobutu. Et justement, Mobutu est justement celui qui a un livre qui a écrit Kabila clone de Mobutu. Parce qu'effectivement, quand nous voyons dans l'action politique de Kabila, il est en train de cloner, d'imiter, d'être dans la chair de Mobutu, notamment avec le rétropédalage. C'est la raison pour laquelle, dans notre meeting aujourd'hui, le président...
Et les indices, c'est sur lesquels vous vous basez?
Les indices sont lesquels sont nombreux, parce que nous venons de commencer aujourd'hui, comme il a dit pour Mobutu, au moment où nous parlons. Nous avons combien de personnes de l'UDPS en prison? C'est bon. Vous savez qu'il y a un proverbe au Kassai qui dit « C'est bon de se mettre d'accord avec le grand chêne et entre-temps, tu es en train de tuer les petits abrisseaux du chêne. Hein? » C'est un peu ce qu'on fait. Pendant que nous parlons, nous avons beaucoup de combattants en prison. Tout à l'heure au meeting, on me parle d'un de nos combattants de Maluku qui est à l'ANR. Et il y a beaucoup d'anonymes, et c'est pour ça que c'est important, surtout nous plaidons surtout pour les personnes sans voix, les personnes pour qui parlent. Évidemment, nous avons des cas symboliques. Il y a le professeur Diomi, le Diomi, il y a Franck Diongo, il y a ce cas emblématique de Moïse Katoumbi. Voilà, c'est que j'allais demander à Dieudonné Mouenzé, pour montrer réellement la bonne foi, qu'on entende demain, par exemple, que voilà, on a examiné les actions, puisque dans l'action comme celle de Diomi, il y a une décision de l'Union interparlementaire qui est un organe auquel nous faisons partie, et il y a une décision du comité des droits de l'homme de l'ONU qui a constaté l'innocence de Diomi et en tout cas le caractère non régulier de la juridiction qui avait condamné. Dans le cas de Franck Diongo, nous avons
Vous êtes avocat. Est-ce que des principes supranationaux peuvent supplanter les principes nationaux?
Exactement, c'est ce qu'on ignore ici. Le principe, donc, supranationaux, les traités internationaux sont supérieurs à nos lois. Or, ici, il y a des décisions prises par le Comité des droits de l'homme. Dans le cas de Moïse Katoumbi, il y a une décision qui a été prise pour que le gouvernement congolais encadre son retour. Le gouvernement congolais refuse d'exécuter cette décision. Dans le cas de Franck Diongo, on a constaté le caractère irrégulier parce qu'après la décision de la Cour suprême de justice, il y a un tribunal qui a constaté que les faits sur lesquels il avait été jugé, ces faits-là n'étaient pas corrects puisque les collaborateurs ont été acquittés. Dans le cas de Diomi, c'est la même chose. Le comité des droits de l'homme dont nous faisons partie, et maintenant nous venons d'être vraiment honorés, eh bien ce comité a pris une décision. Comment voulez-vous siéger à un comité, avoir le courage d'avoir un délégué et vous refusez d'exécuter les décisions? C'est là où vous dites que voilà, ce qui est important. Moi j'aurais voulu entendre, j'ai beaucoup salué la bonne foi de M. Dieudonné Mouenzé quand il a parlé, dit oui, il reconnaît qu'il y a eu des failles, mais seulement du temps de l'AFDEL. Mais le régime actuel, c'est l'enfant de l'AFDEL. Comment voulez-vous refuter que... Donc, vous êtes là en train de vivre ce que l'AFDEL a commencé. Et en plus, vous avez aussi le clonage de Mobutu parce que vous voulez faire le rétropédalage comme Mobutu. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour aller de l'avant. Nous sommes les enfants de ce pays. Nous ne pouvons pas refuser que le gouvernement aille de l'avant. Je veux dire, quand il y a des personnes qui commettent les infractions, on les arrête. Mais combien de gens ne commettent pas l'infraction parce qu'ils sont de l'AFDEL?
Merci.
Ils sont corrigés.
Merci.
On parle de la double nationalité. Combien déjà de l'AFDEL, du PPRD n'ont pas la double nationalité?
Merci.
Et quand Moïse Katoumbi est prétendu une double nationalité, il est une bête à battre.
Merci.
Donc vous comprenez que ça ne va pas, il y a quelque chose qui doit être corrigé. Nous les encourageons à aller de l'avant.
Merci, honorable Dieudonné Mouenzé. Il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Kananga.
Passé qu'un an au Kasaï central, 28 ans après le lancement du multipartisme en RDC, la démocratie et la décrispation de l'espace politique du pays restent un cauchemar pour le peuple congolais, car à plusieurs reprises, le peuple s'est vu arraché de ses droits tels que la liberté d'opinion et d'expression, la liberté des manifestations publiques, la liberté de la presse, malgré les élections non transparentes et chaotiques de 2006 et 2011. L'état inacceptable des droits de l'homme, les crimes d'état, une justice de deux poids, deux mesures. Bref, le non-respect de la Constitution. J'aimerais ici saluer la mémoire de la légende Étienne Tshisekedi et ses compagnons de lutte qui ont milité pour la démocratie dans ces pays comme Floribert Chebeya et Rossi Chimanga Mukendi. Après 28 ans, le multipartisme est égal à avant le multipartisme, car tout se passe comme encore à l'époque du MPR, parti-État, et même pire sur le plan des violations des droits de l'homme.
Après, le multipartisme est égal à avant le multipartisme. Qu'est-ce que vous dites par rapport à...
Bon, M. Guy Maté, c'est le point de vue d'un compatriote. Vous savez, nous sommes dans une démocratie où la tolérance est aussi une vertu. Et je crois que je lui concède de son point de vue. Je ne peux pas polémiquer là-dessus, mais je pense que j'ai une autre lecture. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui confirmer que avant le multipartisme égale après le multipartisme. Non, c'est différent. Hein, je ne sais pas votre intervenant ou l'auditeur à quel âge, mais nous avons eu la chance de vivre cette période de feu maréchal Mobutu. Ça ne peut pas être comparé à la période actuelle. Il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a eu beaucoup d'avancées. Je pense que nous ne sommes pas dans un cauchemar, comme je l'entends.
Mais non. Vous avez suivi Maître Mukendi qui estime qu'il n'y a pas une grande différence entre, n'est-ce pas, vous et le régime du maréchal Mobutu.
Non, il y a des différences. Je crois que nous avons donné des exemples. Du temps du maréchal Mobutu, on n'avait que la voix du Zaïre, vous savez bien, et tout le monde le sait. Mais après le maréchal Mobutu, et après avec l'arrivée de l'AFDEL, avec Joseph Kabila, avec Mousé Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui vous l'avez dit, nous avons combien de chaînes que nous n'avons jamais connues avant 1990, donc ce n'est pas la même période. Nous avons parlé des élections démocratiques, nous ne les avions pas vécues avant la période de Mobutu ou pendant la période de Mobutu. Nous ne l'avions même pas vécu pendant la période, la dernière période de Laurent et de Mobutu, c'est-à-dire entre 1990 et 1990. Où pratiquement l'opposition pacifique au pays était en train d'être complaisante et contribuer pratiquement à pérenniser le pouvoir de Mobutu. Je crois que ce sont des choses qu'il faut dire.
Et comment vous réagissez à l'analyse de Maître Mukendi qui estime que les lois supranationales doivent, n'est-ce pas, primer sur les lois nationales?
Non, je suis d'abord d'accord avec Maître Mukendi lorsqu'il dit que les traités sont au-dessus des lois nationales. C'est tout à fait normal, c'est même constitutionnel. Mais il y a peut-être une petite confusion que Maître Mukendi est en train de faire au niveau de l'appréciation des cas des Diomi, par exemple, et d'autres cas. Non, c'est-à-dire les institutions internationales ne peuvent pas casser les décisions de nos juridictions internes. C'est ça le problème. La justice chez nous est indépendante. Elle est au-dessus. Lorsqu'elle a pris la décision, une autre institution internationale ne peut pas venir casser. Mais en termes de respect des lois et des traités, lorsque les lois sont contraires aux traités, c'est à ce moment-là que les traités constituent une référence.
Et lorsqu'il est avéré que cette justice n'a pas été équitable.
Oui, mais il n'y a que la justice qui doit fonctionner. Au-dessus de la justice, il n'y a pas autre chose. On ne peut pas demander à une institution internationale de venir casser une décision de nos cours et tribunaux. Sinon, nous ne serons pas indépendants dans ce pays. Je crois que Maître Mukendi, qui est du domaine, le sait bien. Mais aussi, je voudrais dire quelque chose par rapport aux libertés. Je l'entends même de notre auditeur de Kananga. Il faut qu'on fasse la différence, puisque la démocratie, des fois, nous en abusons. On pense que dans la démocratie, nous n'avons que les droits et libertés, nous, en tant que citoyens. Mais nous avons aussi les devoirs et les obligations. Donc, à un certain moment, on fait toujours la confusion. On pense que tout nous est permis et que nous pouvons faire n'importe quoi. Non, je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui, contrairement à ce que j'ai entendu, c'est la bonne volonté du pouvoir en place. Et d'ailleurs, lorsque le meeting...
Mais ça ne doit pas éclipser, nous l'avons dit ici avec Maître Mukendi, éclipser, n'est-ce pas, les manifestations publiques qui ont été récemment réprimées dans les temps.
Je suis d'accord avec le professeur Alumbashi qui dit nous devons attendre d'autres cas et nous allons les attendre. Mais si ça se passe normalement, dans le respect de l'ordre public, ça se passera comme en 2016 avec feu Tshisekedi, père Étienne, et ça se passera comme aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Donc ça ne va pas changer. Mais le problème, lorsque vous comparez la manifestation d'aujourd'hui avec la manifestation du CELC, je crois qu'il y a des choses qui sont tout à fait anachroniques. Vous allez constater que le CELC appelle des manifestations sans point de départ, sans point de chute, sans itinéraire, et quand ils sont appelés par l'autorité provinciale pour s'accorder sur les modalités de protection et d'encadrement des manifestants, ils brillent par l'absence.
Malheureusement, le CLC n'est pas là pour réagir
à vos
propos.
Oui, mais le cas de l'IDP, ça a servi de leçon, puisque nous avons vu les autorités de l'IDP aller voir l'autorité locale et s'accorder sur les modalités pratiques de cette manifestation.
Professeur Moudimbi, il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir, elle vient de Lubumbashi.
Moïdiroua à Lubumbashi, 28 ans après le discours du lancement du retour au multipartisme et de la démocratisation du pays, le constat est malhéré. Le pouvoir en place s'éloigne du jour au lendemain de la piste de la démocratie car elle est prise en otage et exercer d'une manière sélective selon les humeurs de ceux qui sont au pouvoir. Le constat est très malheureux parce que plusieurs militants des droits de l'homme et pro-démocratie, notamment ceux de l'Ouest, ceux des mouvements citoyens, se sont fait soit arrêter, soit tuer, et les procès autour de leur mort n'ont jamais abouti. Le cas du procès de Floribert Chebeya, ou même celui de Rossi Chimanga, dont l'enterrement pose problème jusqu'aujourd'hui, vient nous servir d'exemple. Et je ne sais pas si on peut parler aujourd'hui du multipartisme, parce que si on n'est pas du PPRD, ou même de la majorité présidentielle, il est vraiment rare de se voir autorisé tenir un meeting ou même parler librement sans être menacé. Disons que la démocratie dans notre pays n'est pas en bonne santé.
Professeur Jeff Mundimbi.
Ok, merci beaucoup. Je salue aussi notre auditeur. Je respecte bien son point de vue, surtout lorsqu'il conclut en disant que la démocratie en notre pays n'est pas en bonne santé. En effet, il tente un peu de me rejoindre dans mes analyses parce que je dis que la démocratie évolue en dents de scie. Et tout dépend du secteur ou du domaine dans lequel on se situe. Et ici, je voudrais quand même déplacer le débat parce que nous avons parlé jusque-là de la démocratie dans ses aspects purement politiques. Mais une véritable démocratie n'est pas que politique, elle est aussi sociale. Donc, quand je parle de la démocratie sociale, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ceux qui sont au pouvoir doivent en principe travailler dans le sens de la satisfaction des intérêts du peuple. Nous disons, et il y a même une grande redondance, la République démocratique du Congo. Mais on se rend compte que ceux qui sont au pouvoir, plutôt que de travailler dans le sens de la satisfaction des intérêts du peuple, bon, nous assistons à une oligarchie qui ne dit pas son nom. Alors, c'est ainsi que, par exemple, quand nous voyons réellement les cas de violation des droits de l'homme tels que l'auditeur les a cités là, bon, il est tout à fait évident qu'ils disent que, bon, c'est vrai, la démocratie va mal. Mais prenons aussi le cas social. Quel est ce fonctionnaire de l'État qui peut être aujourd'hui content de ses prestations professionnelles pour dire, voilà, la rémunération que je reçois me permet de nouer les deux bouts du mois. Parce que la démocratie implique que nous puissions aussi regarder le social de la population à tous les niveaux. Il y a grève ou menace de grève. Donc cela suppose que réellement, il y a encore beaucoup de choses à revoir.
Professeur,
de toute évidence,
professeur.
Oui, monsieur.
Oui, parce que vous dites qu'il y a encore beaucoup de choses à revoir. Nous allons, n'est-ce pas, commencer à conclure. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire avancer les processus démocratiques en RDC? Ça sera sous votre conclusion.
Oui, merci beaucoup. Moi, je pense qu'il faudrait que les gouvernants prennent conscience de travailler dans l'intérêt du peuple et que le peuple aussi fasse quand même un effort pour se choisir les dirigeants dignes de ce nom qui peuvent réellement travailler dans le sens de ses intérêts. Et à la société congolaise, je pense qu'il faudrait beaucoup plus travailler pour que nous puissions un peu quitter de la culture politique paroissiale ou même des suggestions qui caractérisent la RDC, de sorte que nous évoluions vers une culture politique de participation, pourquoi séculariser, pourquoi pas séculariser, qui est vraiment favorable à l'instauration et à la consolidation de la démocratie.
Merci. Maître Mukendi, Joseph Mukendi Omulumba, comment faire pour consolider la démocratie en RDC? Ça se passe à votre conclusion.
Monsieur Dieudonné l'a un peu dit, il dit que d'autres mesures vont suivre. Nous voulons entendre demain à la radio que le président Kabila a, en respectant des résolutions les accords de la Saint-Sylvestre, il vient de libérer les détenus politiques Muyambo, Diomi Dongala ainsi que Frank Diongo et qu'il a autorisé le retour de Katumbi. Et je voudrais justement relever un élément important puisque la justice et le droit de l'homme ne se limitent pas au domaine politique. Nous avons des professeurs qui menacent d'aller en grève. Nous avons des médecins qui sont en grève. Ce sont les avancées dont parle Dieudonné Moïse. Je voudrais que demain on trouve la solution aux médecins, la solution des professeurs et les jeunes gens qui terminent aujourd'hui à Longinaye et le lendemain, il se trouve avec un parapluie en train d'échanger la monnaie.
Merci, Didone Mouzé. Votre conclusion, Didone Mouzé.
Oui, il est vrai que la démocratie doit avoir toutes ses facettes, et la facette politique et la facette socio-économique. Mais il faut aussi comprendre que la démocratie, c'est aussi l'affaire de tout le monde, acteurs politiques, société civile. Il faut avoir un comportement qui favorise réellement l'installation de la démocratie.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Alain Goy qui était à la technique, à Donna Madimba qui a réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne soirée.